Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
À la seconde près, parce que nous sommes toujours très ponctuels. Il est 18h40, vous écoutez RTL Soir et on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. L'info autrement jusqu'à 19h. Programme menu, s'il vous plaît, Cyprien.
Ce soir, on défait la pompe à essence. Comment est-elle approvisionnée? Où est stockée l'or noir? Comment remplit-on les cuves? Vous ne verrez plus jamais votre station-service de la même façon. Au menu également, des locataires persuadés de vivre dans un immeuble hanté. Ils veulent être relogés. Enfin, une vraie table au Conseil des ministres et des bougies contre le Covid. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Une pompe à essence.
Station-service.
La station-service.
À la pompe à essence.
Cette station-service.
Le station-essence.
La pompe à essence.
Appelez-les comme vous voulez, pompe à essence ou station-service. Ce sont les stars du moment. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu vous faire découvrir l'envers du décor de cet endroit dans lequel vous passez souvent sans vraiment savoir comment il fonctionne.
Comment remplit-on les cuves? Quelle taille font-elles? Où sont-elles? Et les pistolets, ils marchent comment?
Pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres encore, on a appelé le chef des pompes à essence. C'est Francis Pousse, il est président de la branche station-service chez Mobili France. Ça représente la moitié des stations françaises. Mais pour arriver jusqu'à la pompe, l'essence, on le met dans un camion-citerne bien particulier.
Il y a plusieurs compartiments dans un camion. Un camion, ça fait à peu près 36 à 38 000 litres. Et vous avez environ 7 ou 8 compartiments de différentes tailles pour amener tous les carburants en station-service, les gasoils de base, les gasoils supérieurs et les essences, et l'éthanol, par exemple. Une station discount, toute grande surface, va peut-être recevoir 1 à 2 camions par jour en temps normal. Une station de campagne n'en aura même qu'une moitié par semaine. Et en ce moment, les approvisionnements sont effectivement plus longs, donc il n'y a pas ce rythme de livraison.
En temps normal, quand le camion citerne avec ses compartiments, donc on l'a compris, bien rempli, il arrive, qu'est-ce qui se passe exactement?
Eh bien le conducteur le gare, mais pas n'importe où.
Vous avez un endroit, ce qu'on appelle le point de dépotage, et là le camion, il connecte à chacun des tuyaux le carburant qui se retrouve ensuite stocké sous terre dans des cuves qui sont aussi compartimentées. Des cuves, la plupart du temps, c'est du fer, ouais.
Donc sous nos roues, quand on fait le plein, il y a de l'essence en dessous.
C'est ça, exactement. Il y a des tuyaux qui partent justement de ces cuves, des compartiments des cuves, et qui sont dédiés à chaque produit, bien évidemment, pour éviter les mélanges. Et donc après, c'est par un système d'aspiration. C'est-à-dire que quand vous décrochez votre pistolet, la pompe se met en route et va chercher le carburant en question dans la cuve qui est sous terre.
Et c'est standard la taille des cuves qui sont sous la station-service, ou il y en a des plus ou moins grandes?
Il y a généralement deux grandes propositions, c'est 2,50 m ou 3 m de diamètre. Ça dépend de la nature du sol, si vous pouvez creuser profond ou pas. On a des cuves qui font 10 000, on a des cuves qui font 60 000 litres, on en a même qui font 100 000 litres.
Oui, vous avez parfois 100 000 litres d'essence sous les pieds, en gros, de quoi faire le plein de 2000 voitures. Et un camion-citerne rempli pour vider l'intégralité de sa cargaison, ça lui prend 45 minutes environ.
Et le petit clic qu'on entend quand on a fini de faire le plein, c'est quoi?
Je sais que ça vous obsède un peu, ça. Alors, l'excellent Florian Gazan, dans une chronique matinale à 6h50 sur RTL, vous expliquait que ça ne servait à rien de continuer à appuyer. Après le premier clic, votre réservoir est déjà plein. Mais surtout, ce clic, il a une utilité bien précise.
Ça, c'est une sécurité. Parce que vous regarderez la prochaine fois un pistolet, vous avez un gros tuyau, puis un tout petit tuyau. C'est un petit tuyau dans lequel le carburant remonte, et à ce moment-là, ça fait une déclencher justement cette sécurité mécanique pour éviter que vous en mettiez plein sur vous, ou pire, qu'il y ait un gros débordement qui pourrait être dangereux.
Et le monsieur de la station-service connaît en temps réel, figurez-vous, l'état de ses stocks, puisque les cuves sont désormais équipées d'une téléjauge qui lui indique le niveau de remplissage en permanence.
Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut s'arrêter au clic.
Ah oui, ça sert à rien de continuer ça.
Et éviter de faire le contrôle quand on est un peu maniaque.
Ça sert à rien.
En fait, ça.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et on remercie Francis Pousse, il est président de la branche station-service chez Mobiliance.
RTL. Sous les radars.
Allez, on défait l'info passée sous les radars.
La 8e vague de Covid est bien là, avec 95 000 cas recensés hier en France. Mais figurez-vous qu'un nouvel outil de surveillance étonnant pourrait bien faire son apparition, Isabelle.
Les bougies parfumées. Vous allez me dire quel rapport? Eh bien, c'est un chercheur américain qui a fait une découverte assez étonnante. Il a remarqué que sur Amazon, il y avait d'un coup plein de critiques négatives sur une marque assez connue de bougies parfumées. Les gens se plaignaient, vos bougies, ouais, c'est de l'arnaque, elles sentent rien. Surprenant, parce que ces bougies, elles sont plutôt de qualité, elles ont la réputation de sentir très très fort, presque à faire tourner la tête. Mais ces messages très négatifs, ils avaient été postés entre septembre 2018 et décembre 2021, en partie sur le début de la pandémie. Et on le sait, l'un des symptômes les plus spectaculaires, les plus enquiquinants aussi du Covid-19, c'est la perte de l'odorat. Alors notre chercheur a décidé de creuser un peu. Il a comparé les dates de publication des messages et les vagues de Covid. Et devinez quoi ?
Ça match.
Eh ben oui, ça match. 100 000 nouveaux cas aux États-Unis, c'est 0,25% de commentaires négatifs en plus, systématiquement. C'est très précis, il a fait des calculs. Hein. Du coup, les courbes sont sensiblement parallèles, même en tenant compte des rhumes et des grippes et du variant Omicron qui attaque moins l'odorat. Bref, ça démarrait un peu comme une blague sur Twitter. C'est devenu une étude très pointue, détecter les effets de l'anosmie en utilisant le modèle autorégressif vectoriel bayésien. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait sérieux. Ça fait sérieux, voilà. L'idée maintenant, c'est d'utiliser les commentaires Amazon pour prédire les vagues de Covid, ou en tout cas pour donner une indication là où les gens se testent un peu moins.
Habile, petite pause et on défait le monde, continue dans Arte. Le soir, on vous emmène dans un immeuble hanté.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h48, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et un peu de mystère maintenant, de science-fiction avec les malheureux losers du jour.
Oui, accrochez-vous bien. Des habitants de Fontenay-aux-Roses, en région parisienne, qui, à les écouter, n'ont vraiment pas de bol puisqu'ils disent vivre dans un immeuble hanté, Isabelle.
Oui, et l'affaire est prise au sérieux puisque le maire de Fontenay-aux-Roses a décidé de faire appel à un prêtre et à un imam pour pratiquer un rituel d'exorcisme. On en est là. Dans cette affaire qui a éclaté en fait en mai dernier, une dizaine de locataires du numéro 100 avenue Gabriel Péri ont écrit à la mairie pour demander un relogement en urgence parce qu'il se passerait des trucs bizarres dans l'immeuble.
Mais quel genre de trucs bizarres ?
Eh ben des trucs qui fichent la trouille, tiens.
Tu trouves des chaises déplacées, les assiettes qui se déplacent toutes seules, les ampoules qui s'éteignent, qui s'allument toutes seules. C'est des choses vraiment qui font peur.
Des meubles qui bougent, des coups dans les murs. Bon, ça pourrait être des voisins pas très discrets, mais les locataires affirment aussi qu'ils sentent une présence, qu'ils aperçoivent parfois des ombres, des silhouettes au visage flou.
On ne dort pas la nuit. Mon fils de 14 ans, il dort avec moi dans ma chambre aujourd'hui parce que les nuits, il y a quelqu'un qui lui chatouillait les pieds.
Et tout ça aurait commencé en 2019 à la mort de l'un des locataires, un type un peu mystique qui versait dans le magnétisme et qui parlait de son moi astral. Bon, vous me voyez venir ?
Je vois des gens qui sont morts.
Bah oui, des fantômes quoi, le fantôme du numéro 100. Alors dans le quartier où s'est rendu un journaliste indépendant, il y a des convaincus.
Quand François Mitterrand dit « il croit en l'existence après la vie », c'est quoi ? C'est les fantômes, ce qu'on appelle pas fantômes. C'est l'esprit, ce sont les âmes. C'est normal, ça existe.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Ouais, on convoque François Mitterrand. À la télé, les chroniqueurs affichent leur soutien avec toute la distance et la prudence qui s'impose, bien sûr.
Ces familles ne vivent plus. Ces gens ne peuvent plus s'alimenter, ne peuvent plus travailler. Ils sont épuisés mentalement. Il y a plein de dépressions.
Voilà, et sur les plateaux, on invite des témoins, mais sans dramatiser. Hein.
Vous êtes très courageux d'être venu, parce que ces gens se demandent s'ils parlent, qu'est-ce qui va leur arriver ? On en est là.
Et oui, on ne sait jamais, un croche-pied des forces de l'esprit, ce serait fâcheux. Malgré tout ça, il y a quand même des sceptiques.
Moi, personnellement, je ne me suis jamais fait chatouiller les pieds la nuit. Pourtant, j'habite à côté. Hein.
Bah, on sent presque un petit regret, hein, mais à côté, forcément, ça ne marche pas. Il y a aussi des suspicieux.
Ça fait presque 30 ans que j'habite là, moi. Je peux vous assurer que... Il n'y a jamais eu de fantôme. Hein. Je pense que c'est pour être logé, tout simplement.
Ah oui, alors il faut préciser que ces immeubles, ils sont vétustes, c'est reconnu, il y a de l'amiante, ils doivent être rasés, mais ça va encore prendre quelques années. On y croit ou pas, le maire de Fontenay, lui, bah, il a fait son job.
On prend les choses au sérieux parce que, de toute façon, il y a une forme de souffrance qui s'exprime.
Donc les familles ont été reçues, 3 d'entre elles ont décidé de rester, d'autres veulent partir, mais parce que le logement est humide ou trop petit. Bref, d'après le Parisien, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont vraiment perturbé par les fantômes. Prochain épisode, eh bien, l'exorciste, bien sûr, je vous tiens au courant.
Ah bah, j'espère que vous c'est suivez le dossier très, très attentivement. Ça vous fait peur un peu, vous ?
Mais j'aime pas trop ça, les fantômes. Mais j'y crois pas trop non plus, mais sur un malentendu.
C'est le parano de l'équipe.
Le match des infos pour briller au dîner.
Et oui, à table, qui a ce soir la meilleure info pour briller autour du souper ? Isabelle versus Laurent, c'est le match tous les soirs sur RTL.
Et Isabelle a encore creusé les carrières. Elle fait la course en tête avec 16 victoires à 11. Mais Laurent y croit encore, il va briller avec de la pâtisserie portugaise à l'occasion du match de Ligue des Champions de ce soir. Sporting Club du Portugal Ouais, mais
oui, mon info pour briller, c'est que seulement 5 personnes au monde connaissent la recette des pastéis de Belém. Vous savez, ces petits flans portugais à la crème et pâte feuilletée tout droit venu de Lisbonne, fondant, succulent, n'est-ce pas Peggy ?
Peggy connaît bien, oui.
Vous pouvez les retrouver dans pas mal de boulangeries en France. Ce sont des moines qui ont inventé la recette et depuis, attention, la composition des pastéis de Belém est autant protégée que des codes nucléaires. Les 5 élus doivent mémoriser la recette, elle n'est jamais écrite. Ils sont tenus de ne jamais prendre l'avion et la voiture ensemble. Encore mieux, ils ne doivent jamais commander le même plat ensemble au restaurant. On ne sait jamais. Protection maximale.
C'est, bah, c'est vrai que les pastéis de Belém, vraiment, ceux-là, de ce quartier-là précisément de Lisbonne, ce sont quand même les meilleurs. Faut le dire. Isabelle, à vous.
Elle est vraiment prête à tout, puisque pour briller ce soir, Isabelle, vous êtes invitée ce matin à la table du Conseil des ministres.
Oui, l'info, c'est que le Conseil des ministres a enfin une table, une vraie table, je veux dire. C'est incroyable, mais depuis des décennies, le sort de la nation se jouait sur des planches posées sur des tréteaux et recouvertes d'une feutrine affreuse. Ça, en tout cas, c'était l'avis d'Emmanuel Macron. Bah, tout ça, c'est fini. Adieu les tréteaux. Place à Médula, une table conçue par des étudiants en design. Elle fait plus de 13 mètres de long. Elle est composée d'une vingtaine de rallonges qui s'emboîtent comme des vertèbres. Médula, ça veut dire moelle. Donc, c'est modulable selon le nombre de participants. Et puis, c'est démontable, bien sûr, comme les tréteaux, mais un peu plus joli, façon en bois clair. Et les modules passent même dans les monts de charge de l'Elysée. Oh. Évidemment, c'est du Made in France.
C'est une table avec des rallonges, quoi.
L'info, c'est que jusqu'ici, il y avait des tréteaux.
Bon, c'est une très bonne info, mais j'aime beaucoup les pastéis. Donc là, gourmandise plus football.
S'il en avait ramené, on aurait eu 2 points.
Ah oui, c'est vrai.
Même 3-4.
Mais si j'en ramène d'ici la fin
de saison. Non, trop tard. Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes. À 19h, bien entendu, ce sera votre journal. On va revenir sur la crise des stations-service avec les tout derniers développements. Ça bouge cet après-midi. Juste avant, on va défaire votre monde, ou plutôt un tour du monde. Pas besoin, vous allez l'entendre, de gagner à l'Euromillion pour mettre les voiles. A tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier et Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL Soir.
8h56, juste avant votre journal. C'est l'heure où nous aimons vous passer un petit coup de téléphone pour parler de vos jolis projets. On défait toujours votre monde et vos projets fous.
Bah, RTL Soir, tout plaqué.
Qu'est-ce que...
pour faire le tour du monde.
On a perdu Cyprien. Non, des fois, son cerveau, il
bug. Je m'attendais pas à ce que vous me passiez la parole. Tout plaqué pour faire le tour du monde, ça vous paraît impossible.
Et pourtant, Laurent. Ils vont visiter 4 continents. Une famille originaire de Rouen a décidé de se lancer pendant 1 an. Et vous allez l'entendre, pas forcément besoin d'être milliardaire. Ils sont en ce moment même au Canada. Bonsoir, Rachel.
Bonsoir.
Comment est venue cette envie de voyager?
On avait toujours en tête cette idée de faire une parenthèse. Et ça semblait le bon moment. Parce que dans 2 ans, potentiellement, la grande part de la maison, donc c'était un peu le moment ou jamais. Donc on a pris la décision et après on l'a décalé d'un an à cause du Covid.
Et alors, comment ça s'organise, tout plaqué pendant 1 an comme ça? Vous avez vendu la maison et tout? Non, quand même pas.
Alors non, on n'est pas allé jusque-là, il y a pas mal de familles qui font ça. Nous, on l'a mise en location, donc on retournera dans notre maison. On a fait le choix d'alterner des périodes d'itinérance où on se promène dans les pays où on visite, et d'autres périodes où on est plus posé, où on fait l'école de façon plus intensive, puisque nos enfants sont en 6e, 3e et 1ère.
Mais ça a un coût quand même. Alors déjà, est-ce que c'est budgétisé? Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte? Comment on fait?
Alors, ça se prépare, y compris sur ce volet-là. C'est-à-dire que quand on avait acheté notre logement, on avait acheté un logement plutôt plus petit que ce à quoi on aurait pu aspirer. On a changé 2 fois de voiture en 20 ans, mettre un peu de côté, mais on a aussi des comptes épargne-temps. C'est-à-dire que là, on est parti depuis un moment et en fait, que ce soit mon mari ou moi, on est quand même encore un peu payé parce qu'on avait mis des jours sur ces comptes épargne-temps. Ce qu'on paye en plus, ce sont les transports, bien sûr, et puis l'hébergement qui nous coûte plus cher que si on le prenait à l'année.
Donc en fait, c'est un peu un message pour dire que c'est possible, quoi. Ça nécessite beaucoup d'organisation, un peu de temps, un peu d'argent, et c'est possible.
Exactement. Et le budget, finalement, n'est pas tant un sujet que ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de façons de voyager. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'échange de maison, ce qui fait qu'on ne paye pas son logement. On se retrouve dans des logements qui sont très sympas à l'autre bout du monde et qui sont souvent plus grands que celui qu'on avait nous. Ça s'organise assez facilement à partir du moment où on a pris la décision.
Et donc après plus d'un mois de voyage, là, pour l'instant, vous regrettez pas, quoi?
Ah non, pas du tout. Alors, on a commencé par le Costa Rica. On a vraiment fait des vacances là-bas et on a adoré le pays. Et on est arrivé au Canada. Depuis qu'on est au Canada, tous les 3 minutes, les garçons disent « Non, mais c'est formidable le Canada. » Non, ils disent pas ça. Ils disent « C'est trop bien le Canada. » On va en Uruguay à Noël. Moi, j'ai de la famille là-bas. Et ça va être un autre type de voyage, parce qu'on va être dans de la famille. En Nouvelle-Zélande, on va retrouver des amis. Donc voilà, chaque destination aura ses avantages. Tout nous semble plutôt sympa.
Ben, au suivre, hein. Formidable aventure, Rachel. Et puis surtout, on peut suivre toutes vos vidéos sur votre compte Instagram, Los Despacitos.
Ceux qui voyagent tranquillement.
Voilà, exactement.
Au revoir. Despacito.
Il y a des danseurs
Louis Fonsi, on adore.
En studio. Merci à vous, les amis, dans Défait le Monde. On se retrouve demain.
À demain.
18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir.